révéler, c'est mieux. Parce que comme ça, ça oblige de préciser. Vous pouvez en mettre plusieurs, ce n'est pas ça. Dire, il n'y a qu'une question à poser. Non, non. S'il y a plusieurs questions, il ne faut pas hésiter. Ou bien quelque chose qu'on n'a pas traité et que vous aimeriez qu'on traite au moins 5-10 minutes là-dessus. Parce que le sujet est très vaste, ce soit le travail, vous voyez. C'est très, très vaste. Et je voulais surtout montrer pourquoi Saint-Joseph est le patron du travail. Ce labeur obscur de Saint-Joseph pour la Sainte Famille. Et ce labeur obscur de Joseph, tenu par l'amour qu'il avait pour Marie. Je crois que si on essaie de comprendre Saint-Joseph, c'est un homme consacré à Dieu, un laïc. Il ne faut pas l'oublier. L'Église a commencé par les laïcs et elle termine par les laïcs. C'est très étonnant. Ça ne veut pas dire que le Saint-Père va disparaître, que les prêtres vont disparaître, qu'il n'y aura plus de moines. Les moines sont des laïcs, il ne faut pas l'oublier, du reste, en tant que moine. La hiérarchie, c'est le sacerdoce. Mais le moine est un laïc. Il comprend comme tous les chrétiens du monde. Et si les moines, c'est pour être plus profondément chrétien. Et il vit du sacerdoce royal des fidèles. Il comprend que ce qui est de plus grand dans l'Église, c'est d'être uni à l'état victimal du Christ. Parce que c'est ça qui caractérise le sacerdoce royal des fidèles. C'est l'état victimal de Jésus, l'agneau. Joseph, il est travailleur obscur, hein, s'il n'avait pas connu Marie. C'est vraiment Marie qui lui donne toute sa lumière. Et ce n'est pas un matriarcat, parce que Marie n'a aucune envie de deviner. Elle est pauvre par l'Esprit Saint. Et elle a une maternité d'une pauvreté radicale. C'est ça qui est le plus extraordinaire dans le mystère de Marie. C'est une mère non captative et qui n'a qu'un seul désir, c'est que ses enfants vivent une liberté intérieure totale. Et qui n'a qu'un seul désir, c'est que ses enfants poussent et cette liberté d'amour et de lien avec Jésus. Donc il faut bien saisir ce caractère de Joseph, époux de la Vierge Marie, parce que c'est tout le développement de son amour, et ensuite comprendre ce travailleur qui travaille dans un pur amour pour Marie, pour Jésus, pour que cette petite communauté ait une liberté, on dirait aujourd'hui économique, une liberté de famille. Jésus, c'était l'économie était familiale, elle était pour la famille. Alors, on peut dire qu'une liberté de famille, de foyer, il fallait que ce soit un vrai foyer à Bethléem. Et ce vrai foyer reposait sur Marie, divinement et temporellement, politiquement, il reposait sur Joseph. On voit bien, quand on met la hiérarchie, de tous les descendants du Christ, on termine à Joseph. Alors Joseph n'a rien à faire, si ce n'est qu'il est l'époux de la Vierge Marie. C'est ça qui est extraordinaire. Parce que selon le temps, c'était les hommes. C'est pour ça que les femmes réclament aujourd'hui. Parce que ça avait un retard profond et ancien. Alors, elles réclament pour rattraper perdu. Mais du temps de Saint-Joseph, Joseph, Marie n'avait pas besoin de récriminer, parce que si tous les hommes étaient comme Joseph. Oui, les femmes comprendraient que l'homme est un bon serviteur. De temps en temps, il exagère un peu, mais c'est un bon serviteur, on peut compter sur lui. soit l'homme des catacombes, l'homme du secret, l'homme qui se taise, éduqué par Marie. Il faut bien, bien comprendre ça, parce que c'est directement la volonté de Dieu. Et ça fait comprendre des tas de choses dans l'Église, du reste. Ça a commencé comme ça. Alors je voudrais continuer un peu cette question du travail en regardant la question du travail chrétien. Est-ce que, posez-vous la question, est-ce que le travail est changé substantiellement, essentiellement, parce qu'il est un travail chrétien? Y a-t-il un travail chrétien? Je me souviens, dans le nord de la France, tout près de Lille, il y avait une famille de patrons très profondément chrétiens. Et il y avait une usine de tissus où, de fait, c'était net. On le disait, le travail commençait par une prière dans l'usine. Il y avait la prière du matin, avant le travail, ça durait 5 minutes. Et le travail se terminait à l'heure par une courte action de grâce de remercier Dieu de tout le travail fait. Et on avait essayé là de vivre pleinement de ce que l'Église demande, justice sociale de l'Église, de la vivre parfaitement. Et il y avait dans cette usine un climat très particulier d'entente. Pas besoin de syndicats. Il y avait vraiment une charité fraternelle étonnante. Et le travail, par le fait même, était bien moins onéreux, douloureux, pénible. Et je suis persuadé que c'était... Je connaissais les patrons, que c'était quelque chose qui permettait vraiment ceux qui étaient là et qui travaillaient là de faire que le travail épanouisse l'homme. Normalement, le travail doit épanouir. C'est pour ça que je disais, progressivement, on aime le travail. Si le travail n'épanouissait pas, il ne ferait pas que petit à petit on aime le travail. On acquiert des mœurs de travailleurs. Et des mœurs de travailleur, c'est de ne pas perdre de temps. Des mœurs de travailleur, c'est de ne pas s'énerver, d'avoir de la patience, d'accepter le travail qui vous est demandé, de le faire dans l'obéissance à Dieu, puisque ça demande de travailler. Et je suis persuadé que ce qu'on voit aujourd'hui, toutes ces injustices, tout ce déséquilibre énorme, toujours autour du travail. On n'a pas entendu ce que l'Église demandait. On a continué de travailler pour gagner le plus d'argent possible. Alors que le travail n'est pas finalisé par l'argent. Ça, l'économie d'aujourd'hui, quand elle finalise le travail par l'argent, c'est faux. Vivre. Et on a l'argent pour vivre. L'argent n'est pas une finalité. L'argent est un moyen. Un moyen efficace, c'est évident, mais c'est un moyen. Et ça, c'est très important de comprendre ça. Si vous finalisez le travail par l'argent, tôt ou tard, le travail devient d'une façon terrible un nœud de rivalité, d'opposition. Et on ne travaille plus humainement. On arrive au bout d'un certain temps à être dégoûté du travail. Et je crois que c'est ce qui arrive. On veut travailler le moins possible et gagner le plus d'argent possible. Et on accuse tout le monde de ne pas être d'accord là-dessus. Tout le monde est d'accord. Je montre que sûr que ceux qui sont à la tête de toutes ces grandes questions du travail et de l'équilibre du travail dans le monde envisagent froidement s'il ne faut pas supprimer le tiers du monde ou la moitié parce qu'il y a trop de monde. Donc ce serait beaucoup plus simple. On regarde ça très froidement et on a la possibilité de le faire sans demander l'avis, hein. Très très facilement. Et on se pose vraiment la question. Et ceci pour que on puisse vivre une vie plus agréable. C'est effrayant, vous voyez, c'est l'argent qui règle ces questions et non plus les relations humaines et le bien de l'homme. C'est le travail et pour l'homme et non pas l'homme pour le travail. C'est le travail et pour l'homme, c'est l'homme qui est en tête, la mesure du travail. Et l'homme, c'est la famille. Pour un État, au point de vue politique, c'est ça qui devrait exister. Et dans l'année de la famille, on devrait beaucoup prier pour ça, qu'on comprenne enfin. Autrement, on va dans un déséquilibre qui va augmenter. Et les injustices vont augmenter. Et les misères augmenteront. Parce que c'est pas drôle d'être au chômage, hein, quand on a une famille à border et qu'on ne fait pas attention à la famille. Vous êtes habitué à pas avoir d'enfants. Alors, c'est là où on touche, vous voyez, et c'est ça, cette chose très curieuse, c'est que le travail devient le lieu de discorde et d'opposition. Alors que le travail devrait être un moyen de coopérer, d'unifier les hommes entre eux. Puisque ça devrait équilibrer l'homme. Et ça devrait être un lien d'unité et d'unification. Donc il y a un vice. Et quel est le vice? C'est qu'on travaille pour gagner de l'argent. Qu'est-ce qui travaille pour l'homme, pour le bien-être de l'homme? Oui, on travaille pour l'argent. Et donc on en fait le plus possible pour être le mieux payé, le plus payé, recevoir le plus de profit possible. Sans faire attention aussi à côté. En faisant ça, on fait crever toute une communauté qui ne pourra plus vivre. Mais on devient vraiment terrible là-dessus. On a l'impression que dès qu'on est au niveau du travail, il n'y a plus absolument de relations humaines. C'est cela que l'Église rappelle. Vous savez, il y a une encyclique du pape sur le travail. Je ne sais pas si parmi vous, il y en a beaucoup qui l'ont lu. C'est quand même intéressant. C'est pas toujours très commode à lire, comme les encycliques du pape qui sont. Parce que le pape veut creuser. Ce qui est très intéressant de cette encyclique du pape, qui est parue il y a quelques années, il y a 10 ans maintenant, je crois. Non, c'est 8 ans, 9 ans. C'est que ça permet en parallèle le travail dans la vision du libéralisme. Le travail dans la vision marxiste. Et ça permet les deux positions face à face, en montrant que les deux positions font une erreur, et une erreur fondamentale. C'est que on oublie, d'un côté comme de l'autre, l'homme qui travaille. L'homme travaillant. Et on ne regarde que le travail, et que l'efficacité du travail, et que l'argent qu'on gagne par le travail. Du côté du capitalisme libéral que du communisme. Et le Saint-Père parle le fait même que des deux côtés, il y a une grave erreur philosophique sur le travail. C'est que le travail est pour l'homme. Et donc c'est l'homme qui s'en sert et c'est l'homme qui est la mesure du travail. Et c'est ce qu'on devrait comprendre. Alors, au point de vue chrétien, il y a une petite phrase extrêmement belle dans l'évangile de Saint Jean, que le Saint-Père ne note pas du reste dans son encyclique. C'était pas le but direct. l'ajouter. C'est au chapitre 6 dans Saint Jean. Donc vous devez l'aimer particulièrement. Hein. Chapitre 6 dans Saint Jean. Parce que si vous êtes jeunesse joannique, l'évangile de Jean, vous devez le connaître par cœur. Et comme vous êtes jeune, vous devez l'apprendre par cœur. Petit examen, savez-vous par cœur l'évangile de Saint Jean? Puis après, ce sera l'Apocalypse. Hein. Est-ce que ça veut par cœur l'Apocalypse? Un peu plus difficile comme effort de mémoire. Et c'est grandiose, l'Apocalypse, c'est grandiose. Il faudrait que tous ceux qui sont vraiment de la famille Saint-Jean connaissent l'Apocalypse. C'est merveilleux. C'est merveilleux, l'Apocalypse. C'est le livre de l'espérance. C'est le grand livre de l'espérance. Alors, chapitre 6, verset 37. Non, verset 27. Voyez, le chapitre 6, c'est le chapitre de la multiplication des pains. Et c'est le chapitre du grand enseignement prophétique de Jésus sur l'Eucharistie. Si on veut comprendre ce qu'est l'Eucharistie dans l'intention du Christ, il faut lire le chapitre 6 de Saint Jean. Vous savez bien que l'évangile de Jean, c'est l'évangile du cœur de Marie. On peut le dire. L'évangile qui nous montre la vision de Dieu sur la femme Marie et sur l'Eucharistie. C'est l'évangile de l'Eucharistie, c'est l'évangile de Marie. C'est ça qui est merveilleux dans l'évangile de Saint Jean et dans l'Apocalypse, parce que c'est la même chose pour l'Apocalypse. L'Apocalypse nous montre aussi une terrible, une très belle vision sur Marie et une très belle vision sur l'Eucharistie. Hommes, comme dans tous les pèlerinages, il y a deux fois plus de femmes, 10 000 une femme. Et il y a toujours les enfants, surtout dans ces pays-là, on ne les quitte pas. Il n'y a personne à la maison. 15 000 enfants. Hein? Proportion. Vous voyez alors ce que c'est. Et qu'à calculer, ça fait 30 000 personnes derrière Jésus. Et de ce temps-là, c'est énorme. C'est le moment où la prédication du Christ est à son sommet, je crois. C'est à partir de la multiplication des pains et à partir du grand discours sur le pain de vie qu'il y a des disciples qui s'en vont. Le discours du pain de vie qui annonce le mystère de l'Eucharistie. Cette parole est trop dure, qui peut l'entendre? Et à l'intérieur des disciples, il y a une séparation. L'Eucharistie qui devrait être le sacrement de l'unité devient très souvent le sacrement, pas le sacrement, mais l'occasion de la division. Encore récemment, c'est à cause du mystère de l'Eucharistie, à cause de la liturgie de l'Eucharistie, qu'il y a eu cette séparation aussi douloureuse dans l'Église. Puisqu'on fête Saint Pie V aujourd'hui, vous y pensez. Et il y a eu cette séparation. Monseigneur Lefebvre a été... C'est pas tellement Monseigneur Lefebvre, vous savez. Le cardinal Tiandoum a une vénération pour Monseigneur Lefebvre. Ce qu'il a fait à Dakar, ce qu'il a fait au Sénégal. Il m'en a parlé plus d'une fois, parce que c'est un grand ami. Et j'ai connu Monseigneur Lefebvre à Fribourg. Il m'en a parlé plus d'une fois ensemble. Et Monsieur Lefebvre n'aurait pas abouti à ça, mais il était entouré de quelques-uns qui étaient très fanatiques. Et qui ont entraîné Monseigneur Lefebvre des positions extrêmes. Alors que Monseigneur Lefebvre était amicalement lié au pape. L'entrevue, la première entrevue du pape et de Monseigneur Lefebvre était très belle. Et bon, le pape a dit, vous savez bien, j'ai refusé, il dit, j'ai refusé plus au concile, j'ai refusé plus de propositions que vous, mais j'adhère au concile. Voilà ce qu'a dit le pape. Ça, c'est très bon. Parce que c'est pas une opinion théologique. Si on croit qu'un concile dûment rassemblé, l'Esprit Saint est là. Même si c'est pas entièrement selon nos désirs, l'Esprit Saint le permet. Il nous éprouve. Et il nous demande d'être fidèles. Vous voyez, la fidélité ordinairement se présente quand on souffre. On aime l'Église quand on a souffert par l'Église. Parce qu'alors on est obligé de remonter à la source, c'est-à-dire l'Esprit Saint. Et de ne pas rester uniquement, vous voyez, tel, ce qu'on avait pendant le Concile, il y avait des caricatures, alors on mettait tel cardinal conservateur, traditionnaliste, tel autre révolutionnaire. Et vous savez d'où ça venait, ça? Le mot d'ordre. Le mot d'ordre venait de Moscou. J'étais à Fribourg à ce moment-là, et j'avais un confrère dominicain, qui était aussi professeur de philosophie à l'université, qui était polonais, et qui savait parfaitement le russe. Alors tous les matins, au petit déjeuner, il avait la Pravda. Et je voulais savoir ce qu'il y avait dedans. Je me mettais à côté de lui pour un petit déjeuner. Alors il me disait, voilà, un article. Eh bien, quand on a annoncé le concile, je crois, quelques mois avant, il y a eu un article dans la Pravda, donc le grand journal de Moscou, qui était le grand journal soviétique. Il faut que ce concile divise l'Église en deux. Je ne dis pas le russe, mais mon voisin le lisait, il me le traduisait. Et vous comprenez qu'un article comme celui-là, j'ai retenu. Il faut que ce concile sonne le glas du catholicisme. On divisera l'Église en deux, les progressistes et les traditionnalistes. tout ce qu'il faut pour que ce soit comme ça. Et ça doit être comme ça. Ah, c'est trouvé ça terrible. La division dans l'Église. Vous voyez, choisie par les marxistes. Il ne faut pas l'oublier. Hein. Ils prennent un symbolisme. La faucille et le marteau, ce sont des symbolismes qui sont dans l'Écriture. Avec une autre signification. On ne voit pas ça. Parce qu'on ne croit pas assez à l'influence du démon. La faucille, c'est Jésus qui moissonne. Le démon a une frousse intense. Que le Christ revienne pour moissonner. Puisqu'il sait que ses jours sont comptés. À ce moment-là, il sera dans le puits de soufre, comme il dit dans l'Apocalypse. Et il ne bougera plus. Et pour lui, c'est la plus grande des pénitences, c'est d'être seul. Vous savez bien ce petit passage dans l'Évangile, hein, quand Jésus chasse le démon d'un sourd muet, le démon supplie Jésus de les envoyer dans les petits cochons. C'est invraisemblable. Le démon aime mieux habiter dans un petit cochon que d'être seul. Hein, c'est voir le niveau. C'est extraordinaire ça. Je trouve ça extraordinaire comme révélation sur le démon. Il supplie Jésus. Eh bien, le démon qui connaît l'Apocalypse, quand Jésus revient vers la moisson, on voit Jésus avec la faucille aiguisée. Et on voit, si on interprète bien ce que je crois devoir interpréter, on voit Marie avec la faucille pour vendanger. Et dans l'Ancien Testament, c'est Ézéchiel qui parle de la parole de Dieu comme un marteau. Vous voyez comment le démon a pris deux symbolismes et les a unis. On sera jugé sur la parole. Donc, marteau et faucille. Le marteau, pour montrer que la parole de Dieu ne passe pas. La parole de Dieu est plus dure que le silex. C'est pour ça que c'est le marteau. On doit recevoir la parole de Dieu comme quelque chose qui ne change pas et qui ne peut pas changer. Et la faucille, c'est. On doit produire du fruit pour plaire à Jésus, pour aimer Jésus. Et le démon, c'est l'astuce du démon, c'est terrible ça. Il se sert de ses symbolismes dans un sens tout à fait différent. C'est lui qui doit dominer la faucille. C'est sa moisson. Et le marteau, on les aura. C'est ça le marxisme. Le marxisme tue l'âme d'un pays. En Roumanie, en Lituanie, où il y a des frères de Saint-Jean. Et la même réaction. Ce qui est le plus terrible, c'est que le marxisme a tué l'âme d'un pays. Il tue l'âme d'un pays, c'est-à-dire il empêche les hommes de travailler. Il tue le travail. Parce que je comprends très bien travailler pour les marxistes, j'ai pas envie du tout. Hein. Donc, on s'abonne au travail. On fait plus rien du tout. Et quand on tue le travail pendant toute une génération, 40 ans, le temps du désert, vous voyez, le démon est terrible là-dessus. Il imite toujours. Il n'invente rien, mais il imite toujours. Pendant 40 ans, dans son désert à lui, il les a matraqués. Il n'y a plus d'âme. On a tué là. Je crois qu'il faut être attentif à tout ça, parce qu'on vit des événements extraordinaires. On n'a pas choisi d'être à tel moment dans l'humanité, mais le Seigneur nous y a mis ce moment-là. Et on vit quelque chose d'assez. Mais c'est presque tous les jours. Quand on pense que ceux qui entrent, il y en a presque la moitié qui sont convertis. Et il faut voir comment la Vierge Marie a mis le pouce. Et dans ces pays-là, des qu'ils sont libres et que la grâce marche sur eux tout de suite. Ils n'ont qu'à se désirer, c'est tout donner à Dieu. Parce qu'ils ont connu une tyrannie effrayante, livrée à l'homme. Je crois qu'il faut comprendre ce que nous vivons actuellement et le démon est en pleine activité. Alors, je reviens à ce texte parce qu'il est beau, il faut le comprendre. En vérité, je vous le dis, vous le cherchez, non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous en avez été rassasiés. La Bible de Jérusalem dit parce que vous avez mangé des pains à tout votre sou. C'est presque mieux. Travaillez. c'est cela que nous devons comprendre. C'est pas très commode, hein, mais c'est très important. Et ceci, même un travail intellectuel, passer des examens. Oui, vous pouvez finaliser le travail de passer des examens pour votre gloire. Il faut que je passe tout de suite et avec une très bonne note pour que l'on considère. Alors vous finalisez votre travail par une ambition humaine. Dans certains cas, Dieu dit peut-être, s'il n'est capable que de cela, laissons-le, la gloire humaine. On travaille pour la gloire humaine. D'autres travaillent pour le pain de la maisonnée. Père de famille, mère de famille, il faut qu'on puisse vivre. C'est un peu plus noble et un peu plus grand. Et c'est pas suffisant pour le chrétien. Le chrétien doit travailler pour le pain eucharistique. Alors je crois que c'est là où nous touchons vraiment à ce qui caractérise le travail chrétien. C'est que l'Esprit Saint met dans le cœur du chrétien qu'il peut travailler pour le pain et le vin. Directement. Offrir son travail à Jésus, à Marie. Et alors à ce moment-là, Dieu s'en sert pour le transformer dans le corps du Christ. Ça devient très impressionnant. Notre travail devient le fruit, notre travail devient la matière qui permet à Jésus de prendre possession de notre cœur, de prendre possession de notre intelligence, de prendre possession de notre sensibilité, de prendre possession de nos forces. La divinisation fondamentale se fait par le fruit du travail, de notre travail. Je vous affirme que ça donne un levier de commande extraordinaire pour faire son travail avec générosité. On n'a pas envie de travailler parce qu'on est fatigué, on a été à Saint-Jodard, on a été à Rimont. Alors on est fatigué quand on rentre à Paris, ça. C'est forcé, il ne peut pas être autrement. Alors je me dis, mais non, j'aime plus Jésus et je ferai mon travail pour lui. Alors à ce moment-là, ça vous donne une très grande force. On n'a plus besoin de surveillant. C'est Jésus qui est là, qui regarde. C'est lui qui voit tout. Ce serait le grand moyen de ne plus payer des surveillants. Avoir une aumône vous donner aux pauvres qui ont besoin d'un tout petit peu d'argent. Mais je sais très bien que pour les surveillants, ça serait peut-être très mauvais, n'est-ce pas? Mais je crois que, étant donné les conséquences du péché originel, il y aura toujours besoin de surveillants. Ils n'ont pas besoin d'un robot. Il y a un robot qui serait bien, bien éduqué, bien chargé dans son éducation, et qui donnerait une tape à celui qui n'est plus ce qu'il faut faire. Tape à la robot, hein. Là, c'est quelque chose, hein. C'est une brute maniée par l'homme. Alors il faut travailler pour l'Eucharistie, ça vous n'y aviez pas pensé, et c'est pourtant dans Saint Jean. Il faut travailler pour l'Eucharistie, pour transformer les fruits du travail humain en un temple de l'Esprit Saint. Donc, vous travaillez en vue de vous donner entièrement par votre travail à Jésus et à Jésus dans l'hostie. À Jésus présent sous les apparences du pain et du vin. À Jésus intimement donné sous les apparences du pain et du vin. Il se donne sous la forme de nourriture pour montrer que son don va jusqu'au bout. Et ça est lié au travail. Vous savez, c'est ça qui est extraordinaire. et il le lie symboliquement au symbolisme du pain. Le pain, c'est la nourriture. Or, la nourriture, c'est le serviteur par excellence. Il n'y a que de la nourriture dont on se sert substantiellement. D'un habit, on ne s'en sert pas substantiellement. D'un outil, on ne s'en sert pas substantiellement. Un autre peut s'en servir. Tandis que vous ne dites jamais à quelqu'un, demain matin, tu n'as pas besoin de te lever. Vous pouvez lui dire, demain matin, tu n'as pas besoin de te lever. Je travaillerai pour toi. Je serai là au poste. Mais vous ne pouvez pas dire, demain matin, dors bien. Je mangerai mon petit déjeuner pour toi. Vous ne pouvez pas dire ça. C'est trop personnel. Et vous ne dites pas à quelqu'un qui s'est levé tard, plus besoin de déjeuner, j'ai déjeuné pour toi, j'ai pris ton déjeuner. Par amour pour toi, c'est bien évident, par amour pour toi, j'ai pris ton petit déjeuner. Pour bien votre égard. Vous ne pouvez pas dire je communie pour toi. Non. Oui, vous le dites. Ben oui, vous le dites, mais ce n'est pas tout à fait juste. Vous pouvez dire je vais beaucoup prier en action de grâce pour toi. On ne communie pas pour quelqu'un, on communie pour soi. C'est la mendication. Mangez pas pour quelqu'un d'autre. Et Jésus se donne sous la forme du pain. Pour nous montrer qu'il est totalement donné. Parce que d'un outil on s'en sert, d'un vêtement on s'en sert. Mais quand vous commencez à manger votre vêtement, c'est mauvais signe. Il est grand temps qu'il se repose un peu et qu'il devient farouche. Tandis qu'on se nourrit. On s'en nourrit de la nourriture, d'aliments et du pain. On s'en sert jusqu'au bout. À telle façon qu'il se transforme en nous. Et saint Augustin dit, n'aie pas peur, c'est pas toi qui transforme le corps du Christ en ton corps, c'est le corps du Christ qui transforme ton corps en son corps. C'est merveilleux, ça. Union substantielle par l'aliment. Alors ça... Il faut comprendre qu'un chrétien, un vrai chrétien, ne peut plus travailler sans la relation à l'Eucharistie. Et donc le travail doit continuer l'action de grâce, ou doit préparer le mystère de l'Eucharistie. Je crois que normalement, c'est plus de préparer, d'enlever les obstacles, de savoir que son travail est ordonné. Ça, il faut beaucoup y penser. Et montrer que c'est le propre du chrétien de pouvoir faire ça. Voilà. Je vais vous laisser. Pour ne pas vous tarder trop. Parce qu'autrement, tout le monde roulera en dessous de la table. Il faudrait vous porter dans l'endroit où vous devez demeurer. Et demain, si vous le voulez, hein, vous poserez vos questions. Parce que je crois que c'est bien. Bonne nuit. Hein. Au chant de Salvé Régina, qu'est-ce qui s'est chanté ici? Il est là, chante. Oh, très bien.
Vous savez chanter le Salvé, ma sœur?
Qu'est-ce qui s'est chanté le Salvé? Parce que moi, j'ai...